Genève avec Iris Kaltenbeck, bonjour.
Bonjour.
Guten Tag. Papa autrichien, maman française.
Tout à fait.
Parfaitement bilingue.
Presque.
Et on se rencontre pour le ravissement qui va sortir sur les écrans d'ici peu en Suisse romande.
Le 11 octobre.
Voilà. Et qui était à Cannes, à la Semaine de la Critique. Vous avez reçu le prix d'ailleurs du SACD, et non pas assez d'ici, donc la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, beau prix. Et vous avez été inspiré, si je ne m'abuse, pour ce film, par un fait divers. Vous avez lu une accroche dans les journaux.
Tout à fait. C'était une accroche en une phrase qui disait « Une jeune femme fait croire à un homme que l'enfant de sa meilleure amie est le sien ». Et en fait, ça m'a inspirée. À partir de là, j'ai vraiment voulu inventer, en m'abandonnant complètement au plaisir de la fiction et du romanesque, à des personnages et à toute cette histoire, en me questionnant sur le pourquoi du comment du geste de cette femme, en fait.
Et surtout, les conséquences sur à la fois l'homme concerné, l'amoureux, et sur sa meilleure amie. Et sur l'enfant.
Tout à fait. En fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce fait divers et ce qui m'a beaucoup passionnée, c'était l'idée qu'un mensonge puisse à la fois venir bouleverser une amitié entre deux femmes et en même temps être à la naissance d'une histoire d'amour, à l'origine d'une histoire d'amour. Donc les choses étaient complexes et pas manichéennes, puisque finalement il y avait aussi bien de vrais sentiments qui naissaient du mensonge que des choses tragiques. Et voilà.
Iris Kaltenbeck, ça, d'après ce que vous dites, ça m'intrigue de savoir aussi comment vous avez travaillé sur d'abord la définition de l'amitié et la solidité, le socle de l'amitié qui est remis en question ici, et aussi sur les faux-semblants ou les apparences au début d'une histoire d'amour, puisqu'il y a un mensonge initial.
Alors sur l'amitié, justement, en fait, ce que je trouvais très beau, c'est que je me disais qu'on parlait peu, finalement, au cinéma, et même en société, on parle beaucoup de l'arrivée d'un enfant dans un couple, mais pas tant dans une amitié. Et donc, moi, j'ai essayé de me référer même à des sentiments que j'avais pu moi-même éprouver, quand, par exemple, ma meilleure amie est devenue mère à un moment où moi, je ne me sentais pas du tout concernée par ces questions-là et pas du tout sensibilisée à ces questions-là. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était une étape assez classique dans la vie de beaucoup de personnes, le fait qu'une amitié puisse être chamboulée par la naissance d'un enfant. Et donc, j'avais envie d'aborder ça et j'avais très envie de raconter une amitié féminine au cinéma, effectivement, et ce lien qui pour moi est très très important, et à travers deux femmes qui effectivement vivent presque la question de la maternité à contre-courant, puisqu'on a une Lydia qui au début n'a pas du tout particulièrement de désir d'enfant, qui est une sage-femme très investie dans son travail et qui en fait, alors qu'elle n'est pas la mère naturelle de l'enfant, va s'attacher à un enfant et va avoir des gestes très maternels. Et à l'inverse, sa meilleure amie, qui est interprétée par Nina Meurice, qui s'appelle Salomé, et qui, elle, va devenir mère et va enfanter, et finalement va être confrontée à la difficulté du postpartum et au fait que finalement, elle n'éprouve pas d'instinct maternel immédiat et qu'elle n'a pas des sentiments évidents à l'égard de cet enfant aussitôt qu'il est né. Donc ça m'intéressait aussi d'interroger les mythes qui entourent la maternité à travers cette amitié féminine. Et puis pour la part de l'histoire d'amour, justement, je trouvais que finalement, ce fait divers, ce que je trouvais très beau, c'est que même si là, le mensonge, il est énorme, je trouvais qu'il interrogeait cette question du regard de l'autre dans l'amour et dans la naissance d'une histoire d'amour. Et finalement, je me disais que tout le monde pouvait un tout petit peu s'identifier à ce personnage, parce que même
Milos
mais même au personnage de Lydia, de la menteuse, parce qu'au fond, je trouvais que même si tout le monde n'a pas fait un mensonge aussi énorme, je pense qu'on a tous, par contre, déjà flirté avec cette frontière fragile entre vrai et faux quand on séduit, quand on est au début d'une histoire, et que en fait, il y a des projections qui se font et qu'on a envie parfois de plaire et de travestir un peu qui on est pour plaire. Et je trouvais ça très beau d'aborder par le cinéma un personnage comme ça qui fait fiction de sa vie et qui se met en scène elle-même. Je trouvais ça très cinématographique et voilà.
Iris Kaltenbeck, vous avez mentionné justement deux des, des comédiens, deux actrices, et aussi le comédien qui joue l'amoureux.
Mananti, oui.
Oui, et il y a également toute la famille de Milos, qui est, on la voit furtivement, bien sûr, mais des scènes quand même très importantes, puisque c'est l'accueil de la mère et de l'enfant. Et justement, vous avez mentionné aussi que vous vouliez travailler sur les sentiments, sur les faux-semblants. Par rapport à la situation de Lydia, on la voit dans les premières séquences, en tout défloré du film, elle est quand même très maternelle puisqu'elle est maïeuticienne, elle est sage-femme, elle l'aide à donner la vie, et on la voit très tendre avec certains des enfants et les mamans.
Oui, tout à fait, et en plus, et je tenais beaucoup à ce que justement, à raconter comment une jeune femme qui est très... Je veux dire, c'est une excellente sage-femme qui est très empathique, qui apporte beaucoup de soins et qui en même temps reste très professionnelle avec les mères, avec les enfants, qui s'occupe très bien de ses enfants, mais sans jamais dévier ou être abusive ou en faire trop. Comment finalement une personne qui a l'air en tout cas normale, etc., et à laquelle on peut s'identifier, va petit à petit déraper. Qu'est-ce qui provoque le passage à l'acte et abordé par le cinéma et par l'instantané de la scène, de la situation, toujours, comment petit à petit on s'embourbe dans un mensonge, quoi.
Vous avez donc mentionné les comédiens principaux.
Ouais.
Est-ce que vous signez la réalisation, évidemment, la mise en scène, la direction d'acteur et aussi le scénario. Donc, oui. Est-ce que vous avez pensé déjà pendant le scénario, l'écriture, à ce choix de comédien ou est-ce que c'est venu ultérieurement ?
C'est venu ultérieurement. Moi, quand j'écris, je pense vraiment jamais à des comédiens ou à des personnes réelles parce que j'ai besoin vraiment de m'abandonner au plaisir de la fiction et du fantasme des personnages. Et ensuite, il y a ce travail qui est très délicat quand on a fini le scénario où tout d'un coup, on doit mettre des vrais visages. Donc, ça redistribue les choses. Et c'est à ce moment-là qu'avec ma directrice de casting, Younette Peretti, on a commencé à réfléchir et d'abord on s'est concentré sur le personnage de Lydia vu que c'est le personnage principal et on a pensé à Afsia et on lui a proposé le rôle et en fait elle a lu en 24 heures, elle m'a rappelé derrière et en fait j'ai senti qu'il y avait vraiment une rencontre qui s'était faite entre ce personnage et elle et que quelque chose, et je ne sais pas quoi, ça reste un mystère pour moi, lui avait intimement parlé, quelque chose du personnage lui avait intimement parlé au point que, en fait, sur le tournage, ce qui était passionnant, c'est qu'elle incarnait totalement le personnage et qu'elle la défendait corps et âme. C'est-à-dire, et ça, j'ai trouvé ça très important, c'est-à-dire qu'elle était convaincue par son personnage et par presque même, et c'est
son
ça
acte.
Qui était bluffant. Non, mais même son droit de. Elle revendiquait son personnage et dans les situations, elle disait, mais. Là, c'est normal que j'agisse comme ça, parce qu'il s'est passé ça, parce que la situation est comme ça, parce que... Et donc, en fait, elle était totalement dans la logique propre à son personnage, et pas dans une logique extérieure de jugement. Et ça, c'était très, très précieux dans le travail avec elle, quoi.
C'était quasiment organique.
Oui, c'était organique, et en même temps, je pense que ça lui a posé plein de questions, et que c'était un personnage qui était en même temps très difficile et très trouble pour elle. Mais il y avait quelque chose du personnage qui l'avait profondément touché et qu'elle voulait profondément défendre.
D'autant plus qu'elle avait travaillé sur la thématique de la maternité dans un de ses...
Oui, c'est vrai. Alors c'est moi, j'avais vu son premier film.
Je ne frappe pas la réalisatrice.
J'avais vu son premier film, Tu mérites un amour. Et malheureusement, je n'ai pas vu Bonne mère, que j'ai très envie de voir. Mais donc, ça, c'est un hasard. C'était pas volontaire.
C'était pas volontaire. Et vous avez travaillé sur la photographie d'une certaine manière
avec Marine Atlan, la chef opératrice.
Marine Atlan. Et justement, par exemple, les scènes où il y a la rencontre entre Milos et Lydia, c'est nocturne, donc forcément c'est un peu plus sombre. Après, il y a la luminosité quand il y a les scènes avec l'enfant. Comment avez-vous voulu élaborer la photographie tout au long du récit ?
Je voulais une photographie déjà qui ne soit pas trop naturaliste, c'est-à-dire dans le sens où, tout en filmant le réel, je voulais qu'on vraiment épouse le plaisir des couleurs, que par exemple, elle, avec son manteau rouge, elle brille dans la nuit. Et après, ça m'importait beaucoup. C'était un film que je voulais aussi très nocturne parce que je voulais raconter aussi que la rencontre de Lydia et de Milos se fait aussi parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup la nuit, qui donc vivent un petit peu en décalage et à contre-courant des autres, et qui a une forme de solitude qui émane de leur personne, mais aussi de leur métier, et qui va aussi provoquer la rencontre entre eux, et le lien qu'ils vont créer. Et donc, tout ça, il fallait l'illustrer par l'image. Donc, voilà, par exemple, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur la question de la nuit. En même temps, je voulais aussi, par moments, quand ils sont en train de tomber amoureux, alors qu'il y a ce mensonge terrible, être dans des parcs parisiens très beaux, et qu'à ce moment-là, justement, par contre, on exploite beaucoup la lumière du jour. Il y avait toujours cette espèce de recherche d'être extrêmement... de travailler avec le réel. Par exemple, on filmait la ville... en équipe réduite, de manière quasi documentaire, dans le sens où on plongeait Afsia dans les rues de Paris et on l'a filmée sans...
Lumière naturelle.
Oui, beaucoup de lumière naturelle sans avoir de figurant ni quoi que ce soit. Et en même temps, il y avait un vrai travail de couleur et de lumière aussi à certains endroits pour travailler justement le romanesque. Et ne pas rester dans un film purement naturaliste, mais vraiment dire voilà des personnages de fiction et on part dans une histoire, et voilà, c'était comme ça qu'on a travaillé.
Et Iris Kaltenbeck, vous parlez justement de romanesque, pour ne pas rester simplement dans un film comme ça naturaliste. Donc on imagine qu'il y a des influences à la fois littéraires et cinématographiques. En tout cas, au niveau de la littérature, il y a Marguerite Duras, il me semble, d'après le titre.
Oui, tout à fait. Il y a Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, qui, moi, m'avait beaucoup bouleversée quand j'étais adolescente. J'avais été très marquée par cette scène de bal où on voit l'Olvestein qui assiste. En fait, son fiancé tombe fou amoureux d'une autre femme devant ses yeux. Et j'avais été très marquée par la réaction, en fait, de cette jeune femme qui, contrairement au cliché où on s'attendrait à ce qu'elle s'effondre en sanglots ou je ne sais pas, en fait, qui est comme ravie à elle-même, qui est figée et qui assiste à cette scène presque en y participant, et en fait qui fait comme un déni de chagrin sur le moment, qui veut rester jusqu'au bout de la nuit à les regarder. Enfin, il y a quelque chose de très spécifique, et qui ensuite va venir hanter, cette scène va venir hanter tout le film, puisque finalement ce déni de chagrin et ce silence après viennent animer tout le reste du roman et tous ses gestes et ses rencontres avec d'autres hommes et en fait, je trouvais que ça racontait très très bien ce que c'est que le trauma, où finalement, contrairement à ce qu'on pense, le trauma, c'est pas forcément sur le moment que c'est le plus dur et qu'on le ressent le plus, et finalement le trauma va venir nous habiter par la suite et on va avoir besoin de rejouer quelque chose. Et je trouvais ça très très beau sur ce que ça racontait, sur aussi bien sur le trauma que sur l'amour. Et c'est vrai que j'ai donné le même point de départ à mon héroïne Lydia, qui vit une rupture un peu brutale, mais qui au fond n'en parle à personne, qui va danser juste après avec sa meilleure amie, et qui s'enferme comme ça dans une forme de silence et qui ne parle jamais de ce qu'elle ressent. Mais alors qu'en fait, on sent que c'est avec elle et que ça va venir habiter... ses actes et cette rencontre avec cet autre homme, en fait. Effectivement, la référence littéraire est très... Non. Voilà.
Mais je rebondis sur vos propos. On comprend qu'il y a un temps de gestation, sans faire de jeu de mots, temps d'assimilation pour que ça puisse se révéler.
Ouais.
On a aussi... donc, on a compris tout ce qui a été votre source d'influence dans la littérature, mais aussi dans le cinéma. Ouais. J'avais lu, quand vous étiez à Cannes, à la Semaine de la Critique, que vous aviez aussi une sensibilité particulière pour le cinéma taïwanais.
Oui, tout à fait. Le cinéma taïwanais et le cinéma chinois, et notamment, il y a deux films qui me viennent en tête. Il y a Millennium Mambo de Hu Jiaotian, qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et que j'ai vu vraiment des dizaines de fois, et qui fait le portrait justement d'une jeune femme qui est très énigmatique, et où il y a une voix off qui m'avait vraiment particulièrement marquée au cinéma, parce que c'est une voix off au passé qui essaye de reconstituer ce qui a pu se passer pour cette femme. Et ce que je trouvais très beau et très cinématographique, c'est que justement à la fois on suit complètement cette femme, mais il y a toujours une distance liée à un questionnement plus qu'à une réponse sur cette femme. C'est une énigme. Et ça m'a beaucoup inspirée. Même dans Le ravissement, puis c'est un film aussi où les couleurs sont très importantes, où le monde de la nuit est filmé d'une façon très particulière. Après, il y a d'autres films comme effectivement Yi Yi de Edward Yang, que j'adore, que j'ai vu aussi énormément, et où là, ce serait plus ce qui a pu m'inspirer, c'est vraiment, je trouve qu'il raconte incroyablement bien la solitude de tous ces personnages qui sont à la fois en lien et en même temps qui n'arrivent pas à combler leur solitude et qui sont comme ça aspirés dans la ville, dans la grande ville, qui sont comme perdus dans la ville. Et ça, je trouvais ça très beau parce que ça me parlait... en fait, ça me parlait même de l'expérience de Paris, c'est-à-dire une ville où... extrêmement dense, où on se dit mais c'est fou, il y a tellement de monde, et en même temps on ressent que quand on prend le temps de regarder les gens et de les observer, on sent que c'est comme une multitude de solitudes. Et ça, je trouve ça très beau, toutes ces solitudes qui se côtoient mais qui se comblent pas.
Sans communication.
Voilà.
En tout cas, au niveau de la communication, vous êtes fabuleuse à interviewer. Parce que vous m'avez rappelé, peut-être que vous avez des yeux télescopiques, mais vous m'avez rappelé une de mes questions.
Ah non, pas du tout.
C'est l'intuition de la future maman. Donc, vous avez parlé de voix off. Et justement, je voulais vous poser la question sur ce choix de la voix off.
Eh bien alors, justement, c'est parce que je tenais à ce double récit, c'est-à-dire je tenais à ce qu'à l'image, on soit vraiment dans le présent avec cette jeune femme, à la suivre le plus possible. Et en même temps, je tenais à une certaine distance, c'est-à-dire je tenais à ce que le spectateur retrouve par le biais du récit de Milos, l'amoureux, on va dire, enfin l'amoureux, une forme de distance vis-à-vis de personnages et de questionnements, c'est-à-dire en fait je voulais que... Finalement, Milos, son point de vue se rapproche peut-être plus, et sa démarche, de la mienne en tant que réalisatrice, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui a pu arriver à cette femme et essayer de mener une enquête sur cette femme. Et c'est ce que fait Milos, c'est-à-dire comme toute personne qui s'est fait tromper dans un mensonge, en fait, on va revisiter toute l'histoire. On se dit, mais j'ai vécu ça, mais sauf qu'en fait... je le vivais de manière totalement erronée, et on se repasse les scènes comme un film, en fait. Et donc lui, il essaye, à partir des éléments qu'il a entendus au procès, à partir de ses souvenirs, à partir de plein de choses, il essaye, à partir de ses fragments, de reconstituer l'histoire de Lydia dans son point de vue. Et je trouvais ça aussi très important pour un personnage masculin, que ce soit un personnage qui s'interroge aussi sur la place que lui, il a tenue dans le mensonge, c'est-à-dire dans le mensonge, il y a celle qui ment ou celui qui ment, et puis il y a la personne qui croit au mensonge et qui l'interroge cette croyance. Qui se demande, est-ce que j'ai vrai... Finalement, est-ce que j'ai joué un rôle? Est-ce que j'ai voulu croire à ce mensonge aussi parce que ça lui a fait découvrir plein de choses sur lui-même. Voilà.
En tant que spectatrice et spectateur, on sent que Milos... il ressent peut-être le problème d'avoir été révélateur d'une situation, de l'avoir suscité.
Tout à fait. Et en fait, c'est d'ailleurs dans la scène initiale du premier quiproquo, on va dire, c'est quand même son regard, et c'est quand même de lui que vient le quiproquo, c'est-à-dire qu'il prend Lydia pour la mère de cet enfant. Et c'est comme un désir qui s'exprime, et que Lydia accueille, et ensuite elle s'en empare volontairement.
Et le nourrit.
Et elle le nourrit. Mais c'est comme si elle répondait quand même au regard et au fantasme de Milos. Et donc, c'est en ça que c'est compliqué et que c'est beau. C'est qu'en fait, c'est même si c'est son mensonge à elle, c'est aussi un mensonge à deux. Voilà.
Et à trois, involontairement.
Et à trois, involontairement, tout à fait.
Justement, pour revenir à l'élaboration de ce travail, l'écriture du scénario, après la réalisation, j'imagine que ça va changer votre regard à la fois sur la maternité et sur la paternité.
En fait, en tout cas, je ne sais pas si ça l'a changé, mais en tout cas, ça m'a permis d'explorer des questions que je me posais sur la maternité, notamment sur... parce que je trouve que la société est encore très chargée d'une certaine conception de la maternité et d'un certain...
du carcan véhiculé pendant des siècles.
Exactement, et d'un poids qui peut peser, je le vois bien aujourd'hui chez des jeunes femmes de mon âge, que ce soit des femmes qui aient envie d'avoir des enfants, que des femmes qui n'ont pas du tout de désir de maternité. Déjà, la question se pose toujours à elles, c'est-à-dire à partir du moment où on est une femme, on atteint 30 ans, la question se pose, qu'on le veuille ou non.
Horloge biologique, voilà. Même si elle est repoussée à l'heure actuelle.
Voilà, mais je veux dire, même au-delà de l'horloge biologique, il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent pas d'enfants, mais qui sont obligées de répondre régulièrement à cette question de la maternité, alors que j'ai l'impression que c'est quand même une question qu'on pose peut-être moins aux hommes qui atteignent 30 ans. Donc je voulais aborder toute la mythologie en fait qui pèse dans l'héritage, dans notre héritage. Je veux dire, je pense même à la Vierge Marie, au jugement de Salomon. Enfin, et dans la Bible par exemple, il y a énormément d'histoires de maternité. Qui, je pense, ont beaucoup façonné notre manière de voir la maternité. Et c'est vrai qu'à travers ces deux amis, je voulais justement interroger ça et me demander, à travers l'une qui n'est pas mère et qui ressent des sentiments maternels, et l'autre qui est mère, mais qui ne ressent pas forcément tout de suite ses sentiments. Et sur la paternité, en fait, je trouvais très beau l'idée de filmer la rencontre entre un homme qui n'a pas de désir de paternité à l'origine et un bébé, et auquel il va s'attacher malgré tout, et pour qui il va éprouver des vrais sentiments, alors même qu'il n'a pas de lien biologique avec cet enfant. Et donc finalement, au fond, questionner ce que c'est que la famille et la définition de la famille, quoi.
Je dois concentrer mes questions puisqu'on arrive au bout de l'entretien. Merci. J'ai vu que pour l'élaboration de votre protagoniste, donc Lydia, vous avez été beaucoup inspirée par Lucrezia Martel ou par Kelly Reinhardt.
Lucrezia Martel.
Leur façon de travailler.
Oui, en fait, et surtout leur façon de décrire des personnages féminins et de les filmer. C'est-à-dire que je trouve que c'est deux cinéastes, en tout cas contemporaines, que j'admire énormément et dont les personnages féminins m'ont énormément marquée, parce que justement je trouve qu'elles apportent un nouveau regard et cette question du féminin au cinéma elle est très actuelle et je trouve que en fait moi je suis pas du tout pour dire je renie pas du tout, moi il y a des très grands cinéastes, je veux dire, moi j'adore Hitchcock, j'adore plein de cinéastes qui sont masculins, qui ont fait des très beaux personnages féminins, mais je trouve que c'est génial qu'aujourd'hui, des réalisatrices puissent apporter aussi un autre regard à côté, non pas à la place, mais en plus, sur leurs personnages féminins, parce que moi, ça me donne accès à une intimité et à des questions qui n'ont pas forcément été encore explorées, et donc ça ouvre tout un nouveau pan dans l'histoire du cinéma.
Et par rapport à ce film qui va sortir donc le 11 octobre en Suisse, vous êtes présente ici à Genève. Quelle est votre relation avec soit le public helvétique, soit même le cinéma helvétique ?
C'est une relation de découverte pour le moment. J'étais jamais venue à Genève avant, je connais pas bien. Je connais un peu plus la Suisse allemande en fait, parce que j'ai beaucoup été marcher dans l'Engadine.
C'est presque les Grisons, les Romanches.
Voilà, exactement. Mais en fait, je suis ravie qu'en fait, c'est marrant quand on fait un film, on n'y pense pas, surtout quand on est plongé au milieu de Paris, etc. On ne pense pas au fait que le film ensuite va aller toucher d'autres publics. Et
francophonie.
Et je trouve ça extraordinaire.
Alors, vous étiez à Cannes, comme j'ai dit, à la semaine de la critique. Vous avez eu le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Est-ce que ça a été un grand moment pour vous ? Ça vous a apporté beaucoup ? Et comment vous avez vécu la présentation à la semaine de la critique ?
Je commence par la deuxième question. La présentation la semaine de la critique, ça a été assez formidable. Moi, j'avais jamais mis les pieds à Cannes avant. Donc, c'était une très belle façon. C'était une très belle première fois. Et en fait, la semaine de la critique, ce que je trouve assez génial, c'est que comme c'est vraiment dédié aux premières fois, enfin au premier et second film, que la sélection est très petite, puisqu'il n'y a que 6 ou 7 films en compétition. Il y a quelque chose où c'est génial pour faire ses débuts parce qu'on n'est pas noyé, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie bienveillance et que l'équipe de la semaine de la critique s'est vraiment très très bien accompagnée des jeunes auteurs qui connaissent pas encore bien le système. Et je pense que les premières fois, c'est toujours assez... c'est inoubliable. Et le prix SACD, évidemment, ça m'a fait un immense plaisir, surtout qu'ils ont énormément salué aussi le travail de toute l'équipe. Et aussi parce que c'est un prix qui est remis justement, effectivement, par des auteurs réalisateurs et réalisatrices. Et ça, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir.
Est-ce que ce prix vous ouvre des portes supplémentaires ?
Bah oui, en fait, il ouvre des portes au film, il offre une visibilité au film, ainsi que la semaine de la critique, qui sont exceptionnelles. Et nous, en plus, c'est arrivé très vite. On a fini le DCP, on a fini la post-prod du film le mardi, et on était dans la salle à Cannes le samedi pour le présenter. Donc, ça a été une immense chance pour le film, oui.
Iris Kaltenbeck, avant de vous quitter, là vous accompagnez Le Ravissement qui sort sur les écrans, nous en sommes ravis, et on peut quand même dire, parce que d'ici peu ça se saura, que vous avez un joli ventre arrondi, donc bon succès pour cette création qui doit être déjà bien avancée,
ouais.
On dirait que c'est avant Noël.
Ah oui, oui.
Voilà, félicitations pour votre film et pour votre bébé, il y en a qu'un.
Oui, oui.
Il y en a qu'un. Et justement, est-ce que vous aurez le temps déjà de vous remettre au labeur, de continuer l'écriture ?
Oui, j'ai recommencé à écrire avec beaucoup de plaisir. Après toute l'expérience du tournage et de la post-prod, c'est assez, c'est très plaisant aussi de se retrouver seule dans un bureau et de se remettre à rêver un nouveau film. Et pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est, j'aime bien garder
le secret
tant que j'aime pas parler des choses avant qu'elles soient là.
Pas plus. On vous souhaite beaucoup de succès.
Merci.
Pour le deuxième film que vous êtes en train d'écrire et pour ce bébé à venir imminemment.
Oui, dans le mois.
Comme je disais hors micro, c'est pas très original, ce film vous a beaucoup inspiré. Félicitations, Iris.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.